trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous est avec nous ce soir, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Merci d'être là. Merci à David Calfon d'être avec nous également. Bonsoir David.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Sanso Longchamp Asset Management désormais et Thomas Friedberger à nos côtés enfin. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Directeur général adjoint de Tikeo Capital. Merci beaucoup messieurs d'être là. Ravi de vous retrouver dans cette ambiance de rentrée. Un peu nerveuse, je le disais. David, qu'est-ce qui génère ce stress de rentrée sur les marchés? Quand je dis stress, c'est pression sur les matières premières, pression sur des trades très populaires. On parle du Nasdaq, on parle de la tech américaine. La question des devises également, qui s'est invitée dans le jeu des marchés depuis quelques semaines maintenant avec la question du yen. Qu'est-ce qui provoque ces mouvements et d'où vient ce stress?
En fait, on peut rappeler que les marchés ont quand même tendance à être assez monomaniaques. Hein. Donc, on a eu plusieurs mois, voire années, pendant lesquelles on s'est concentré uniquement sur l'inflation. Et là, en fait, le marché vient de changer de focus. Maintenant, on ne parle plus que d'emploi. Hein, c'est le discours de Jackson Hole, où Powell a été très clair en disant « Bon, l'inflation, c'est plus un problème. En revanche, l'emploi, c'est en train de se dégrader, etc. » Le sujet clé, c'est, on est toujours dans ce débat, est-ce que on rentre dans une récession dure aux États-Unis et donc dans le reste du monde, ou bien est-ce qu'on arrive à faire ce fameux soft landing, hein, cet atterrissage en douceur de l'économie, que tout le monde appelle de ses voeux, mais qui malheureusement, historiquement, ne s'est pas souvent produit. Donc c'est un petit peu ça le sujet. Alors après, quand on regarde donc, ce changement de focus, il a été assez brutal, quand même malgré tout. Personnellement, et d'ailleurs au sein de l'équipe chez Sanso Longchamp, ouais. On est assez surpris de voir que tout d'un coup, tout le monde s'émeut de l'ISM qui serait passé voilà, avec ce fameux 47,5, etc. Nous, on s'est regardé, on s'est dit, mais...
Donc c'est l'ISM, la grande enquête manufacturière publiée tous les mois aux États-Unis qui est tombée hier pour le mois d'août.
Exactement. Et on s'est juste regardé, on s'est dit, mais en 2022 et en 2023, l'ISM a passé...
Toute l'année.
C'est ça. Sous les 50, personne ne s'en est ému. Et là, tout d'un coup, on est à 47,5, et là, c'est la fin du monde, ça veut dire que tout s'écroule, etc. Donc ça, on est un peu perturbé par tout ça, parce que ce que nous dit le marché, effectivement, c'est qu'il y a la nervosité. Il y a un message de prudence qui est envoyé par les marchés, hein, quand on voit les leaders se faire challenger.
Ah ouais.
Ça, c'est un message qu'on doit écouter. Hein, quand on voit Nvidia qui a une réaction négative aussi violente, quand on voit le secteur de la consommation de base qui commence à surperformer la tech, etc.
Ça, la santé, les télécoms, des secteurs dont on parle souvent depuis quelques années en tout cas.
Ce sont des indicateurs qui doivent quand même nous dire, il faut être vigilant, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, quand on regarde véritablement ce qui est intégré aujourd'hui par les marchés, on peut prendre tout simplement les 200 points de base de baisse des taux qui sont déjà anticipés par les marchés.
Pour la Fed, à 12 mois.
Exactement.
Le marché estime qu'en 12 mois, la Fed va passer ses taux de 5,25-5,50 à 200 points de base de moins. Quoi.
Exactement. Et nous, on trouve ça quand même... très agressif. Quoi. Ça voudrait dire qu'on rentre véritablement dans une récession déjà pure et dure. Et à aujourd'hui, il n'y a quand même rien qui permet de dire que la récession va être aussi dure que ça. Donc, Donc on est un peu partagé par tout ça. Après, et juste pour conclure cette introduction, il y a aussi quelque chose qui nous interroge également, c'est que on a beau dire que le marché est nerveux, etc. Quand on regarde le marché du crédit, on trouve des spreads qui sont quand même très, très serrés. Donc, le spread, c'est la rémunération du risque pris. Ouais. Ces spreads, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Les marchés actions, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas chers. Ils sont sur des valorisations qui ne sont pas encore extrêmes, mais c'est quand même bien valorisé.
Quoi, les US, le S&P, se paye quoi 25 fois aujourd'hui, peut-être, les profits? C'est cet ordre-là, je crois.
À peine en dessous, oui.
À peine en dessous. C'est l'ordre de grandeur.
Voilà, exactement. Donc ça aussi, ça nous incite quand même un petit peu, entre le message de prudence qui est envoyé par les marchés,
je comprends,
des niveaux de valorisation qui sont quand même assez riches.
Mais pas envie d'être trop contrariant sur des séances de baisse comme ça, à racheter très vite ce qui a pu baisser. Quoi.
Intuitivement, quand on voit autant de nervosité, de choses négatives, etc. dans le marché, on aurait très envie d'être contrariant et de se dire « Allez, ça y est, on rachète ». Et
c'était ce qu'il fallait faire pendant des années. Hein.
Voilà, et on prend les positions, etc. Mais là, on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Donc, si les marchés étaient moins chers que ça, on n'hésiterait pas. Voilà. Là, on est un petit peu plus attentiste.
Bon, est-ce qu'on joue à se faire peur avec l'idée d'une récession américaine, notamment ? Alors, moi, je veux bien qu'on se focalise sur l'ISM américain. On pourra parler peut-être d'autres zones économiques dans le monde qui peuvent générer... plus d'inquiétude encore que l'économie américaine aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thomas. Est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce qu'il y a les prémices d'un changement profond peut-être dans la logique du marché un peu global aujourd'hui ?
On ne joue pas à se faire peur parce que ça fait déjà très longtemps qu'il n'y a pas eu de récession dure aux États-Unis. Dans le monde post-Covid, on voit bien qu'il est quand même beaucoup plus compliqué de lire le cycle macroéconomique qu'auparavant. Déjà parce qu'il y a eu des politiques monétaires complètement hors normes qui ont encore des effets monétaires et budgétaires.
Et budgétaires, oui.
Qui ont encore des effets aujourd'hui. Et puis aussi parce qu'on voit bien que le nouveau paradigme mondial de démondialisation, etc., qui n'est pas le scénario qu'on a eu pendant les 40 dernières années, et de remontée des taux, en fait, brouille un peu tous ces indicateurs. Si on regarde le cycle d'inflation des années 70, on voit que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a monté, ça a rebaissé. Des gens, à ce moment-là, ont dit que l'inflation était morte. C'est remonté à nouveau. Et d'ailleurs, ce qui est amusant de constater, c'est que dans la première montée, les entreprises ont pu passer l'inflation aux consommateurs, mais pas dans la deuxième. Donc là, on a revu ça se reproduire. Donc, tout ça, il faut... Et personne ne travaillait sur les marchés. Personne aujourd'hui d'actif ne travaillait à ce moment-là sur les marchés. Donc, pardon... Sauf une personne.
On a un témoin. Il a connu Alan Greenspan.
Après, au niveau valo, effectivement, je rejoins David. Il y a le sujet valorisation qui amène de la nervosité parce qu'elles sont très élevées, que ce soit sur le crédit ou sur les actions. Moi, je trouve qu'il y a deux scénarios qui sont particulièrement agressifs qui maintiennent cet optimisme sur ces marchés-là. C'est les taux vont baisser agressivement et l'IA va sauver le monde, en gros. J'étais pas plus tard qu'en ce midi avec un de nos sociétés en portefeuille qui dans l'IA qui me disait c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça parce que avant de générer des gains de productivité déjà il va y avoir des capex énormes à faire du côté des apporteurs de services, du côté des entreprises, et qu'aujourd'hui les entreprises sont probablement pas capables de délivrer les gains de productivité attendus parce que leurs systèmes sont pas adaptés, parce que les donneurs d'ordre savent pas ce qu'ils veulent, et que donc ça va être beaucoup plus compliqué que ce
avant de rapporter ça coûte cher l'IA.
Exactement.
Ça, hein. Et le marché est en train d'en prendre conscience d'une certaine manière aujourd'hui.
Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ces deux éléments-là font que
baisse des taux et IA.
Moi, je trouve.
Il y a de la complaisance encore.
Voilà, il y a de la complaisance.
Dans ce marché.
Ah, je comprends. Et puis après, il y a ce qui se passe sur les petites et moyennes sociétés qu'on voit à travers le non-coté, qui est quand même que, effectivement, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de leviers dans le marché, que l'inflation a renié les marges. C'est pas neutre. Et pour une entreprise, des entreprises qui sont mono-business, mono-pays, c'est maths règle de 3. Hein, si vous avez une marge d'EBITDA de 20% et qu'à coût constant, votre chiffre d'affaires baisse de 10%, votre EBITDA baisse de 50%. Et donc, en fait, ça se passe dans les entreprises qui ne sont pas capables d'adapter leur structure de coût. Ça crée de la difficulté, ça crée du stress. Et donc, y a aussi ça à apprendre du non-côté. Et peut-être que le côté regarde ça et dit...
Ça peut arriver aussi à des boîtes côté, quoi. Enfin, ouais. Oui, ça peut se... Enfin, c'est des entreprises qui opèrent parfois dans les mêmes secteurs, etc. Certaines sont côté, d'autres ne le sont pas. Mais
c'est
elles,
pas
elles peuvent avoir les mêmes
côté, évidemment.
Oui. Mais... J'entends, ouais. Alain, qu'est-ce qui vous intéresse dans cet épisode de stress de marché qu'on peut relier d'ailleurs au 5 août ? Est-ce que c'est une forme de réplique qu'on vit ? Dans l'analyse un peu multifactorielle, qu'est-ce qui vous paraît avoir de l'importance aujourd'hui par rapport à peut-être des facteurs un peu plus secondaires ? J'en sais rien.
Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc ça va être difficile de dire quelque chose de vraiment différent. Mais c'est ce qu'on constate souvent sur les marchés, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on sait. On sait qu'il y a un ralentissement en Chine, on sait que la situation aux États-Unis est complexe avec les élections qui arrivent, des programmes qui commencent à être identifiés aussi, ce qui change un peu la donne par rapport à ce qu'on avait avec l'épisode Trump qui était sûr de gagner avec des baisses de taux.
Ah oui.
On verrait bien comment
il
montrait tout ça.
Oui, oui.
Là, la situation avec une Kamala Harris qui est quand même plus...
remet un peu d'incertitude dans le résultat de l'élection.
Voilà. Avec un élément dont on n'en parle pas trop, c'est la fiscalité qu'elle propose, qui fait beaucoup parler aux États-Unis sur les gains potentiels. Ça fait quand même très très peur aux Américains.
C'est-à-dire qu'en fait, y a des calculs qui montrent que ça va faire baisser les EPS des entreprises américaines. Oui.
C'est ça, clairement. Oui, c'est ça. Oui, c'est quelque chose qui... tout ça, c'était un peu, on se disait bon, peut-être, et d'un seul coup on se dit et si ça arrivait vraiment, qu'est-ce qui se passerait, quoi. Donc il y a tous ces éléments qui arrivent un peu tous en même temps et qui se retrouvent avec 3 jours fermés les Américains qui d'un seul coup ouvrent, et puis il y a tout ça qui arrive en même temps, donc ça crée ce stress. Et effectivement, je pense qu'en plus il y a la situation de la Banque du Japon qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'en fait il y a du levier, il y avait un levier massif, le carry trade, le fameux carry trade. Et la banque japonaise, qui, à l'inverse des autres, dit qu'elle va monter ses taux, ce qui est quand même, là aussi, quelque chose qui est un peu perturbant. Et ça perturbe toujours les marchés d'avoir des banques centrales qui ne sont pas cohérentes dans leurs actions. Donc,
là, c'est même pas une désynchronisation, c'est un front renversé.
C'est l'inverse. Là-dessus, vous rajoutez la Chine, qui est dans un trou noir. Pour moi, c'est vraiment le trou noir de l'économie.
Avec des ralentissements chinois, moi, je parle d'enlisement.
Et avec un problème, c'est que on était en train de parler d'inflation, David l'évoquait tout à l'heure, on parlait d'inflation. Je pense que si les Chinois se mettent vraiment en route à vraiment peser sur les prix pour relancer leur économie en faisant un peu un dumping là où ils peuvent le faire, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits, mais ils vont quand même en trouver. Si on regarde la balance commerciale américaine, ils sont encore déficitaires massivement avec la Chine. Enfin, tout ça, c'est des éléments qui sont quand même assez négatifs. On met ça avec un taux d'épargne des Américains qui est revenu dans les plus bas. Donc la croissance ne peut pas se faire autrement que par du levier. Enfin, tout ça est un peu perturbant. Et il y a aussi, je trouve, quelque chose dont on ne parle pas, on en parle, mais ça fait tellement, c'est tellement Armageddon que c'est ce niveau de dette mondiale qui est massif et qui est quand même toujours là. Et à un moment donné, je pense que ça peut faire quelque chose d'assez discriminant sur les marchés. C'est-à-dire qu'on va avoir les pays trop endettés, les entreprises trop endettées, et on va se retrouver comme ça avec une situation qui est quand même un peu négative.
Et là, pour le coup, il y aura une vraie pénalisation qui n'existait pas dans le monde des taux zéro ou négatifs.
Ça va discriminer. Et on voit que la discrimination, quand elle arrive, ça fait très très mal. Et si on refait un dernier point sur les semis, je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode Zscaler hier, qui annonce des résultats très bons, largement supérieurs à ce qui était attendu, mais avec des guidance qui sont un peu moins bonnes. C'est moins 25%.
Ah bah c'est ça, oui.
Et ça reste quand même une entreprise...
Le syndrome Edia. Voilà. Aujourd'hui, il en faut très peu pour décevoir sur cette thématique et dans ce secteur.
Et c'est une entreprise qui, avec le niveau actuel, est quand même à 63 de PE. Quoi. Vous voyez, donc ça reste quand même quelque chose d'important. Après, je pense que les situations actuelles... Alors, aujourd'hui, être contrariant, ça serait peut-être un peu trop rapide, mais je pense que... Enfin, c'est notre jeu aussi ici. On est tous positifs sur les marchés à moyen long terme. Après, le truc, c'est à quel moment on va acheter. Et alors, si on fait une petite graduation, l'or, on peut acheter, parce que si les taux baissent, l'or, c'est quand même sympathique.
Même partant des records qu'on a atteints, cet été. D'accord.
Oui,
ça reste un investissement confortable.
Oui, c'est ça. Entre du cash aujourd'hui ou des obligations d'État qui ont bien performé, je pense qu'on peut quand même alléger l'un pour acheter l'autre. Je pense que les spreads de crédit ne reflètent pas le risque qu'il y a sur un certain nombre d'entreprises, donc je pense qu'il faut quand même un peu faire attention. Et les entreprises et les actions, et je pense que si on revient sur les marchés, c'est d'abord sur les actions qu'il faut revenir, mais attendre un peu, il faut attendre cette consolidation, il faut attendre que la vol continue de monter, et on l'a vu, ça n'a pas duré longtemps, la volatilité a monté très fortement le 5 août, mais ça a été un mouvement très rapide. Là, ça recommence à monter. Je pense que si la vol revenait pour une raison ou pour une autre avec un marché qui piétine un peu aux alentours de 35-40, ça serait l'indicateur que les gens commencent à se couvrir, et c'est là qu'on peut réinvestir. Ça veut dire des marchés qui baisseraient de 10-15%. C'est à ce moment-là qu'il faudra faire des actions. Mais je pense que c'est, après l'or, c'est le deuxième actif à acheter, et en commençant par les États-Unis toujours, parce que l'Europe, la situation politique est quand même désastreuse.
Bloquante.
C'est désastreux. Oui. Donc là, il va falloir plus que 10% de baisse.
Attends, surtout qu'en plus, on les a pas fait, les indices européens, le DAX est au sommet, le Stock 600 est au sommet aussi. Enfin, je veux dire, on parle de l'Europe avec effectivement une vue macro conjoncturelle très négative. Bon, sur le plan boursier, c'est pas des indices qu'on démérité jusqu'à présent. Ces histoires de baisse de taux, quand même. comment elles sont appréciées par le marché, par les investisseurs et par vous aujourd'hui, David ? Parce que moi, je me souviens, une grande partie du discours avant l'été, c'était de dire si la, si la Fed baisse les taux pour accompagner le mouvement de désinflation, pour prolonger le cycle, etc., ça va être très bon, très positif pour les actifs risqués. Là, le pricing de baisse de taux s'accumule côté américain, vous l'avez dit, jusqu'à 200 points de base en 12 mois. Le marché semble pas y voir une très bonne nouvelle. Enfin, sur une séance comme hier ou comme aujourd'hui, marché obligataire joue son rôle d'amortisseur, oui. Mais pour le reste, le bad news is good news est un peu derrière nous de ce point de vue-là.
Oui, tout à fait. Il y a cette nuance qui est apparue. Oui. Qu'est-ce qui est une bonne baisse des taux ?
Oui, c'est ça. Ben oui, ouais.
Bon, on va essayer de rentrer un petit peu dans ces subtilités, mais la bonne baisse des taux, effectivement, c'est celle qui remet de l'huile sur le feu,
ouais.
Un petit peu, hein,
qui accompagne, quoi.
Qui accompagne, qui permet de relancer les valorisations des marchés, etc. La mauvaise baisse des taux, c'est celle où on se dit qu'on a vraiment besoin de baisser les taux beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, parce qu'on aurait été en retard. Hein, il y a toujours ce sujet, en
bien
disant
sûr,
que la Fed, de même qu'elle a mis du temps à monter ses taux, là, on sent quand même une Fed qui est en réaction beaucoup plus qu'en anticipation. Donc, on l'a eu ça à la hausse des taux. Et là, on a le même sujet à la baisse des taux. On dirait, est-ce qu'ils n'ont pas laissé les taux élevés trop longtemps ? Est-ce que ce n'est pas en train de mordre véritablement dans ouais. la...
Et pourtant, ils nous en parlent depuis décembre dernier, Jérôme Poël, de ce risque de laisser les taux trop élevés, trop longtemps, etc.
Mais c'est vrai qu'il y a un petit cocktail aux États-Unis quand on considère un petit peu ce qui se passe sur le marché de l'emploi. On regarde finalement l'épargne des ménages, hein, donc ce fameux bas de laine qui avait été constitué pendant le Covid. Mmh. Maintenant, on a des statistiques qui nous montrent que les Américains se sont bien servis dedans.
Ah, ouais,
donc
okay.
Ça, là-dessus, mmh. Voilà, il n'y a plus grand-chose qui reste dans ce bas de laine. Donc l'amortisseur au niveau de la consommation, il n'y a plus grand-chose. Mmh. On peut se dire également que côté politique budgétaire, ça va peut-être être un petit peu plus restrictif également. On voit pas trop les demandes de CAPEX, on n'en voit pas des tonnes. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui se disent « Ah ben si c'est super, moi je vais construire telle usine, je vais relancer telle chose ». Ça, on ne voit pas, ce genre de choses.
On parle plutôt de fermeture d'usines en Europe.
Exactement.
Si vous voulez évoquer le secteur automobile, qui est un exemple de tempête parfaite aujourd'hui.
Au niveau de la consommation, on n'a pas. Au niveau de l'emploi, ça se dégrade. Au niveau du CAPEX, il n'y a pas. Au niveau des budgets de l'État, il y a moins. Ça peut devenir compliqué. On a peut-être ici des ingrédients qui...
Donc là, il y a un mur des craintes qui s'est construit pour les investisseurs.
Oui,
quoi.
Oui,
on a une liste de sujets à traiter. Et on verra comment ces sujets sont adressés,
exactement.
Pour mal parler français, au fur et à mesure du temps. Quoi. D'accord.
En revanche, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'à aujourd'hui, on est dans l'anticipation.
Oui, oui, oui.
Il n'y a aucun chiffre
on
aujourd'hui
est d'accord.
qui nous permet de dire non, on va être mûr, voilà.
Même, je peux vous faire le contre-argumentaire. Certains, et des gens brillants, économistes, vous voudraient 5 cas où non, l'économie américaine n'est pas en récession, n'est pas au bord de la récession, n'a rien pour être au bord de la récession, et que la Fed reste dans le bon tempo. On s'en apercevra au fur et à mesure, mais mm-hmm. que la Fed est en mm-hmm. capacité de délivrer effectivement la licorne absolue, la rareté
et
suprême,
et
le soft landing.
Je rejoins un petit peu Alain, on dit qu'on est à la recherche de points d'entrée, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est actuellement. Peut-être que ça viendra d'autre chose que de l'économie, peut-être que ça viendra effectivement de la politique. On a des élections aux États-Unis, peut-être qu'à un moment donné, il y aura des sondages qui sortiront, qui montreront que tel candidat a plus de chances de passer que l'autre, que son programme pour les entreprises, c'est pas très sympa, que sur certains secteurs, c'est là qu'ils vont aller chercher l'argent, et là, ça peut créer un petit peu des secousses. Voilà, sachant que quand on regarde, voilà, sans vous la faire de politique, on voit que chaque candidat aux États-Unis va amener son lot de turbulences.
C'est-à-dire
il y a une candidate qui va monter les impôts de certains trucs, il y en a un autre qui va nous apporter une guerre commerciale et une guerre tarifaire qu'on a déjà.
Et puis à l'arrivée, c'est quand même du déficit dans les deux cas. J'ai pas vu beaucoup de volonté de consolidation budgétaire, que ce soit côté démocrate ou républicain.
Exactement.
Thomas, vos commentaires, vos réactions, bien sûr. Et puis. Qu'est-ce qui se passe en Asie ? Que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, vous passez beaucoup de temps en ce moment en Asie pour Tikeo, parce qu'il y a des gros développements corporate, commerciaux, avec des acteurs asiatiques et notamment japonais. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe sur le yen, par exemple, aujourd'hui? Et puis, dans cette zone asiatique, moi, je veux bien qu'on reparle du trou noir chinois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, si ce n'est qu'il n'y a rien de neuf, en fait, dans l'enlisement de l'économie chinoise? Et jusqu'où le problème est profond pour des groupes occidentaux qui sont exposés encore à cette zone chinoise?
Alors, sur le Japon, les deux cas sont assez différents.
Sur le Japon.
C'est le fait qu'il y a une inflation aujourd'hui au Japon de 3% qui oblige la Banque du Japon à remonter ses taux. Et donc, on est de nouveau dans un environnement de taux positif au Japon. Le 10 ans, je crois, était à 1%. Et donc, le carry trade sur le yen, donc le trade de portage qui consiste à emprunter en yen et à placer à l'étranger, c'est débouclé en partie. Alors après, c'est très compliqué de savoir si c'est entièrement débouclé, un peu débouclé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans ce carry trade avec des différentes pratiques de banque, d'asset manager, etc., de fonds de pension. Mais c'est ça qui s'est passé. Nous, on interprète ça vraiment comme un risque de finalement faire remonter les taux réels ailleurs qu'au Japon et donc créer un petit gap de liquidité. Et on le voit.
Ça peut remettre de la tension sur des taux et des rendements obligataires de pays occidentaux.
Ouais, sur les taux réels, je pense, et donc indirectement avoir un effet sur la liquidité des marchés. Donc ça, on alerte là-dessus. Il y avait clairement le fait que l'épargne japonaise allait s'investir à l'étranger, avec évidemment les politiques monétaires des banques centrales, et puis un éventuel stimulus chinois, étaient les principaux arguments pour dire que la liquidité était abondante. Donc les quantitatives, les politiques de resserrement monétaire ont enlevé ça. La Chine ne fera pas ou n'a toujours pas fait de stimulus. Il y avait ce carry trade japonais qui est en train de s'estomper. Et donc, on est un peu inquiet sur la liquidité. Après, sur la Chine, situation totalement différente. Donc, on est dans la situation d'un pays qui a, on va dire, renationalisé son économie avec une économie de nouveau dirigée par l'État. Les entreprises privées sont de nouveau très contraintes en Chine. Donc, pour les entreprises non chinoises, il y a deux problèmes. Il y a le marché chinois qui est très difficilement investissable. Et on voit bien aujourd'hui que des sociétés qui continuent à opérer en Chine préfèrent opérer via des JV, des joint ventures, pour avoir le moins possible d'actifs engagés sur place.
Portés par le partenaire chinois.
Et puis de l'autre côté, effectivement, les entreprises type ThyssenKrupp ou Volkswagen qui souffrent de la concurrence de produits chinois qui sont produits à perte ou à prix très bas, parce que la politique de la Chine aujourd'hui industrielle, c'est de surproduire pour créer de la croissance et surtout pour créer cette indépendance vis-à-vis de l'Occident. Et donc on se retrouve avec des produits chinois dans les cellules solaires, les panneaux photovoltaïques, les turbines éoliennes, les voitures et puis demain les avions, les trains
et
les centrales nucléaires.
Et la grande conso y passe également. Moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est outre la morosité du consommateur chinois, pas de filet de sécurité, etc., enfin ça qu'on décrit et qu'on comprend depuis plusieurs années, c'est l'émergence de ces marques chinoises dans des domaines. Alors l'automobile, évidemment, je crois que tout le monde est au courant aujourd'hui, mais hier on en parlait avec des spécialistes du luxe, même dans le domaine de la beauté aujourd'hui. Vous avez des L'Oréal, des Estée Lauder qui sont challengés par des marques émergentes chinoises qui raflent des parts de marché sur un marché assez atone, quoi, d'une certaine manière. Starbucks face à Luckin Coffee, enfin, il y a des mécaniques de gain de part de marché de marques chinoises qu'on ne voyait pas avant face à des franchises occidentales qui étaient quand même reconnues, y compris sur ce territoire-là.
Voilà, elles sont compétitives, mais après, il faut regarder comment elles sont compétitives le cas échéant, sanctionner quand c'est de la compétition, quand c'est du dumping, quoi. Et donc, c'est ce que font les États-Unis et voilà, et l'Europe, on voit que ça menace quand même certains secteurs en Europe. Et donc ça... ça contribue à gripper aussi la machine dans certains secteurs, à exporter de la déflation, à créer de la... Si ça n'en exporte pas, à créer du protectionnisme pour justement pas que ça en crée. Et on voit que c'est un frein, c'est un frein à la croissance des résultats des sociétés sur le long terme.
Bien sûr. Et le commerce entre l'Europe et la Chine, au début d'une forme d'escalade, là, les premières mesures qu'on peut prendre sur l'automobile, c'est-à-dire comparé à ce que fait le Canada ou les États-Unis, on ne joue pas dans le même cours. Les enjeux sont aussi différents. Il n'y a pas une voiture automobile chinoise qui se vend sur le marché américain aujourd'hui. Donc on peut mettre 100% de tarifs. Mais il y a l'idée d'une escalade de guerre commerciale qu'on n'avait pas vue encore menée par l'Europe, en tout cas.
C'est très complexe, c'est très politique, on ne sait pas. Il y a des enjeux très différents. Je pense que les industriels allemands ne sont pas très chauds pour des tarifs parce que, évidemment, les entreprises chinoises sont, ou étaient en tout cas jusqu'à présent, leurs clients. Aujourd'hui, sont plutôt des concurrents très compétitifs avec des bases d'actifs plus neuves. Un savoir-faire, on le voit dans les voitures, qui n'a rien à envier au savoir-faire européen. L'Europe, c'est quand même pas ultra homogène non plus.
Non, mais on connaît les...
Mais c'est sûr que si c'est pas... Enfin, s'il n'y a pas de... ça peut menacer certaines entreprises, certains secteurs.
Les parts de marché des constructeurs occidentaux automobiles européens, allemands avant Covid, c'était 2/3 de parts de marché en Chine, c'est tombé à 1/3. Ça va à une vitesse phénoménale.
Après, comment on se défend de ça? Je pense que la première réponse, effectivement, c'est les barrières douanières, c'est-à-dire qu'on met des tarifs et puis on espère que ça va aller. Je pense que c'est une mauvaise réponse parce que les Chinois s'adapteront à des barrières et on les mettra pas assez haut pour que ça règle le problème.
On sera content qu'ils viennent construire des usines en Europe à un moment. Si nous on enferme, peut-être que le trade va se faire comme ça.
Oui, mais ça, c'est défaitiste, ça, parce qu'en fait, c'est admettre que c'est fini, on ne produit plus la technologie en Europe. Je pense que.
Volkswagen le dit.
Je sais.
Volkswagen, en Allemagne, 300 000 personnes, on n'est plus compétitif. Le patron de Deutsche Bank, Christian Schwing, aujourd'hui, qui fait la leçon aux Allemands en disant les Allemands ne travaillent pas assez. Non, mais les Allemands ne travaillent pas assez.
Oui, je sais. Mais alors, je pense que la prochaine réponse que feront les politiques, ce sera de mettre des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, pour empêcher, pour donner du temps à l'économie européenne, en particulier, les Américains, c'est autre chose, mais les Européens devront faire un truc comme ça. Je pense que c'est la prochaine étape. Ce qui permet, en plus de coincer les Chinois avec des stocks monstrueux, parce qu'ils sont quand même avec des stocks non négligeables et ils vont être pendus si c'est ça. Donc, ça sera une manière de faire de la rétorsion, parce que construire des usines chinoises en Europe, je pense que c'est la fin de l'économie européenne. Je pense pas que ça soit...
Bien construire des usines japonaises, fut un temps...
Oui, mais ça, c'est autre chose. Enfin, c'est fini.
Ouais, d'accord,
c'est
fini.
C'est autre chose.
D'accord.
Et puis, les Japonais, ils voulaient pas détruire notre système.
On est plus dans la même équipe.
Voilà, c'est ça.
Okay.
C'est ça. Les Japonais, ils voulaient pas détruire notre système. Okay. Ce qui est pas le cas des Chinois. Donc,
Il y a des usines de constructeurs automobiles chinois qui s'implantent et qui vont s'implanter en Europe. Ça, le mouvement, il est quand même là.
L'autre point de la Chine, c'est on voit l'urgence sur laquelle ils sont, c'est que ils ont un problème démographique majeur. C'est-à-dire que pour la première année 2024, ça va être une année où il y aura plus de décès chinois que de naissances. Dans un pays où personne ne veut aller habiter, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter sur l'immigration, ils ont un problème immobilier qui les condamne pour les 10 prochaines années à avoir des politiques à la godille pour essayer de s'adapter. Donc ils annoncent des baisses des taux, mais qu'est-ce que vous voulez consommer si vous avez pas, si vous êtes déjà endetté, si vous êtes déjà...
Non, mais tout ça est très bien renseigné, documenté. Sauf que effectivement le mur se rapproche et rien ne change de ce point de vue-là.
Ça. Et puis en plus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait de nationaliser l'économie, c'est rarement bon signe. Alors les asset managers, écoutez bien ce qu'ils font en Chine. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, ça fait un moment que les Chinois resserrent les asset managers en Chine. Là, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont demandé aux sociétés de gestion que les hauts cadres rendent de l'argent sur 5 ans sur les salaires perçus sur les 5 dernières années qui étaient possibles. Voilà, je dis ça... Je sens une inquiétude côté asset manager. C'est pour dire que même LFI n'avait pas pensé à ça. Donc on y est quand même sur un truc qui est quand même
pas trop fort. Donnez pas d'idée. il y a un membre du parti dans les conseils d'administration depuis plusieurs années, etc.
Ça peut pas déboucher sur quelque chose de très positif.
Sur la rotation du marché boursier, je veux bien qu'on y revienne un peu, David. Alors effectivement, il y a à la fois peut-être le pic de la hype atteint autour de l'IA, de Nvidia, etc. Face à ça, vous citiez quelques secteurs. Alors, la conso de base, la santé, les télécoms, l'assurance aussi en Europe. C'est des secteurs... alors que l'automobile était leader, boursièrement parlant, en Europe, jusqu'à avril, peut-être. C'est-à-dire, le secteur automobile a fait 50% de baisse, grosso modo, depuis les points hauts. Et alors que la santé, les telcos faisaient rien, on a vu cet été que c'est des secteurs qui ont parfaitement rempli leur rôle aujourd'hui. Est-ce que c'est des secteurs, au-delà du caractère défensif intéressant en ce moment, est-ce que c'est des secteurs qui retrouvent aussi de l'intérêt pour des investisseurs de long terme ?
Alors, je vais juste donner une petite anecdote qui m'a été donnée par un de mes collègues avant de venir ici. On parlait justement de ce secteur de la consommation. Et il me dit, souviens-toi, en 2000, au moment de l'éclatement de la bulle Internet, Coca-Cola s'est payé 46 fois les bénéfices. Voilà. Donc, juste pour dire que le mouvement de surperformance qu'on a eu de ces secteurs-là, ce renversement de tendance, oui, on en a eu une partie. Est-ce que on est au bout du mouvement ? Probablement pas. Je pense que c'est un mouvement qui est en cours, ça peut durer plus longtemps. En tous les cas, on est sur ces secteurs-là, on n'est pas encore sur les valorisations un peu extrêmes qui nous disent « non, mais bon, ça y est, c'est fini ». Voilà. Effectivement, quand on voit un Coca-Cola qui se paye 46 fois les bénéfices, on peut se dire que c'est peut-être un peu une exagération.
Mais on a été sur ces... Enfin, peut-être sur ce genre de niveau, il n'y a pas si longtemps que ça. Post-Covid, on avait toutes ces valeurs staples, Coca, Kraft, etc., qui se payaient effectivement comme des valeurs d'hypercroissance
à un moment. Tout à fait. Donc, effectivement, je pense que ça prône effectivement pour, en tous les cas... Un rééquilibrage des portefeuilles. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, devrait faire du bien au monde de la gestion active, parce que je rappelle que essayer de surperformer des indices lorsque tout est concentré sur cette valeur, c'est très compliqué. Oui.
Donc, Nvidia, si vous voulez suivre le marché, il faut en avoir 6% dans le portefeuille. Hein. Donc, pour une ligne, c'est
neutre.
Beaucoup. Quoi. Voilà.
Et on est juste neutre.
Il fait toutes les autres derrière.
Donc, il y a des et donc, que le marché s'élargisse à nouveau et qu'on voit d'autres secteurs prendre un petit peu le leadership, nous, on trouve ça très sain.
C'est
plutôt très bon signe. Un marché, un indice qui est tiré uniquement par un secteur, voire, pire encore, un groupe de 5-6 valeurs...
Très connectés entre elles, en plus.
C'est sûr.
Diversification, là aussi, c'est un de vos maîtres mots, Thomas. Est-ce que ça paye aujourd'hui ? Je voyais quand même le S&P 500 écoute pondéré a très bien fait dans la phase de reprise post-5 août et a battu un record, je crois, il n'y a pas très longtemps, un plus haut historique.
Plus que diversification... Et le mot que j'aime bien prononcer, c'est sélectivité. Voilà. Je préfère être sélectif que diversifié. Parce que, encore une fois, avec ce mouvement de démondialisation, ce mouvement de remontée des taux, les taux vont rebaisser un petit peu.
Mais la diversification géographique, vous dites, n'est pas forcément...
Je suis pas sûr.
D'accord.
Je suis pas sûr.
J'entends.
Je préfère prendre des paris sélectifs. Que de, comme on dit dans le venture capital,
répandre trop. Très clair. Ça, c'est la ligne d'un Warren Buffett, quoi. Il a toujours été assez anti-diversification, hein, Warren Buffett. Il est en train de vendre pas mal, d'ailleurs, au passage.
Il est en train de vendre pas mal.
Petite parenthèse. Des gros noms, qui ont fait sa fortune et sa gloire, en partie.
Nous, on est assez persuadés qu'on rentre dans une période de croissance faible dans le monde, parce que moins optimisée. Il y aura moins de possibilités de créer de l'efficience en allant produire à l'autre bout du monde. Il y aura moins de possibilités de créer du levier en mettant beaucoup de levier avec un environnement de taux réel qui sera un petit peu plus élevé, etc., etc. Et que donc, dans un environnement de croissance faible, il faut savoir prendre des paris et identifier ce qu'on pense être des secteurs de croissance forte. Et donc ça veut dire être sélectif plus que diversifié.
Oui, j'entends. Pour rebondir un peu sur la vision, la perspective macro que vous avez du monde de demain, quand vous entendez Jérôme Powell dire que l'inflation n'est plus un sujet, comment vous prenez ce message ? à la fois, il est bien obligé d'acter du mouvement de désinflation qui a été spectaculaire, d'essayer d'être un peu forward-looking aussi sur la situation. Mais comment vous entendez ce message ? L'inflation n'est plus un problème jusqu'au jour où elle le redeviendra
Je pense qu'il parle à court terme. J'ai pas le contexte dans lequel il a dit ça.
C'était Jackson Hole il y a 10 jours. Le marché du travail est peu une source de génération d'inflation aujourd'hui. Les tensions s'évaporent sur le marché du travail. C'est plus un sujet de préoccupation immédiat, effectivement, à ce stade.
Probablement dans le contexte d'une baisse des taux en septembre. Je pense que c'est ça l'idée.
Ah bah, très clairement.
Dire que l'inflation n'est plus un sujet à horizon quelques années, bon, peut-être qu'il a, il a une grosse conviction ou de l'information qu'on n'a pas. Moi, je dirais pas ça parce que, encore une fois, la démondialisation, c'est inflationniste. La transition énergétique, c'est inflationniste. La devise chinoise forte, c'est inflationniste. Regardez les coûts de fret encore dans le canal de Suez. Aujourd'hui, c'est très cher. Dans le canal de Panama, pour des raisons de niveau d'eau, il y a un trafic qui est perturbé parce que le changement climatique fait que le niveau d'eau est plus bas. Vous avez toutes ces
poches qui s'accumulent.
Les coûts d'assurance sont beaucoup plus élevés parce que la sinistralité climatique commence à impacter les primes d'assurance pour les corporates. Tout ça, c'est inflationniste.
Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre dans ce moment de politique monétaire, c'est que Jérôme Powell endosse, en tout cas dans son discours de Jackson, une position assez agressive avec une économie qui tourne encore à 3% de croissance, deuxième estimation pour le PIB américain au deuxième trimestre. C'est peut-être le passé, mais c'est quand même un passé très récent. Il a pourtant un discours volontairement agressif, il n'emploie pas les mots graduels, etc. Il se laisse toutes les options ouvertes pour pouvoir agir significativement en cas de détérioration supplémentaire du marché du travail. C'est-à-dire qu'il ne dit même pas une détérioration au-delà de 5% de taux de chômage. C'est partant du taux de chômage actuel, on ne veut plus voir de dégradation supplémentaire. De l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'on a une situation économique, une atonie économique depuis deux ans en zone euro, qu'on a une inflation qui a baissé aussi très vite. Je rappelle que l'inflation globale est à 2% autour en zone euro. Une BCE qui partait toute seule en juin et tout le monde qui applaudissait en disant « ça y est, enfin, ils ont compris, etc. » pour la retrouver en septembre avec Isabelle Schnabel qui dit « Oh là, il est très progressif, très graduel. Dès qu'on commencera à approcher de la limite supérieure du taux neutre, il faudra tout de suite arrêter, regarder ce qui se passe, etc. » Enfin, voilà. On retombe dans ce biais structurel.
Moi, je pense que c'est une source d'inquiétude des marchés. C'est-à-dire qu'en fait, le marché pousse aussi pour que les banques centrales agissent plus rapidement. Ça fait partie des scénarios de risque.
Donc la Fed est prête à accélérer là où il faudrait que ce soit la BCE qui accélère.
Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Il y a quand même aussi un sujet, alors je ne sais pas, ils n'en parlent pas parce que ce n'est pas le sujet, ils ne peuvent pas en parler, mais la politique, les élections dans 60 et quelques jours aux États-Unis fait aussi peut-être que Powell se dit je vais peut-être
faut
pas
y aller maintenant.
Je vais y aller maintenant pour un mouvement significatif.
Et si on sécurisait le maximum avant que le nouveau locataire ou la nouvelle locataire de la Maison Blanche.
C'est la qualité de la baisse des taux. Les baisses des taux en Chine aujourd'hui sont plutôt inquiétantes qu'autre chose. Et il ne faudrait pas qu'une baisse des taux trop forte aux États-Unis soit trop inquiétante. Parce qu'il y a aussi un problème avec. Je reviens sur Kamala Harris, c'est parce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux sur l'impôt. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également en Europe, c'est que il y a beaucoup de tentations de monter les impôts d'une manière ou d'une autre. On taxe ceci, on taxe ça, mais ça fait monter les impôts sur les sociétés. Avec, et ça c'est un point pour les Big Seven, quoi, nos Magnificent Seven, c'est Google qui se retrouve un peu sous pression.
Nvidia, Nvidia.
Également être
visiblement, c'est une nouvelle qui
ça c'est forcément.
Ils vont pas, détruire Nvidia.
Non, ils vont pas le détruire.
Aujourd'hui,
ils vont essayer de calmer.
Freiner les ardeurs.
Montrer aussi aux autres que il faut peut-être pas trop s'emballer sur ces sujets. Mais ça fait pour, c'est une des raisons pour laquelle Nvidia est passé de 130 à 100, quoi. Donc
visiblement ça
joue quand même un petit peu avec des PE élevés, même si la croissance est quand même assez forte. Mais encore une fois, je pense que la politique américaine va donner le ton. Et là, pour le moment, les sondages, ils veulent rien dire. Ils font des sondages nationaux qui veulent rien dire, même si Kamala Harris a une bonne traction. Moyennant quoi, on est dans cette incertitude. Et je pense que cette incertitude nous met deux mois dans la vue. Et on n'a pas besoin de ça en Europe. Et aux États-Unis, ils peuvent peut-être se le permettre. Mais en tout cas, ils prennent deux mois de retard, comme ils ne vont pas faire ça le lendemain des élections. Enfin, on est... Et puis avec une politique budgétaire qui est quand même pas claire aux États-Unis.
Le marché, il attend 100 points de base d'ici la fin de l'année.
Oui, je sais, c'est pricé.
Le marché attend quand même que la Fed fasse.
Il ne faudrait pas qu'il fasse 0,50 au premier mouvement, quoi.
Je pense que la proba a bien remonté là. Les ouvertures de poste là.
J'ai peur que ça perturbe un peu les investisseurs plutôt qu'autre chose. Parce que là aussi, on parlait de Jackson Hole, mais au moment du Jackson Hole et depuis Jackson Hole, les indicateurs sont un petit peu détériorés. Donc c'est pour ça que le marché met un peu de pression aussi. Vous voyez, il y avait une première baisse des taux qui était logique avec les informations qu'on avait. Là, c'est un peu. Il faut aller peut-être un peu plus loin.
À ce stade, pour finir là-dessus, David. La probabilité du jour nous dit que 50 points de base tient la corde peut-être pour le 18 septembre prochain du côté de la Fed. Dans l'état actuel des choses, aujourd'hui, ce serait une nouvelle rassurante ou pas forcément ?
Non, moi je ne prendrais pas ça forcément comme une bonne nouvelle. Okay. Je pense que, parce que, encore une fois, ce que l'on voit justifierait plutôt 25 points de base.
Oui. D'accord.
Et du coup, s'ils en font 50...
C'est qu'il y a d'autres raisons derrière.
Comme Thomas le disait, peut-être des informations que nous n'avons pas.
Non, c'est peut-être une motivation liée au calendrier politique qui pourrait les forcer aussi à agir un peu plus vite, mais ce qui ne serait pas forcément bien perçu d'ailleurs par les marchés.
Tout à fait leur rôle. Donc,
Rendez-vous avec tous les épisodes de politique monétaire devant nous, la BCE la semaine prochaine et la suivante, la Réserve fédérale américaine. On notera aujourd'hui dans le G7 que la Banque du Canada, qui a dû partir peut-être la première, avant la Suisse. Ils en sont à la troisième baisse de taux. Bon, économie très pétrole, proche des États-Unis, voilà. Mexique aussi a commencé à baisser les taux de l'autre côté. Oui. Enfin, voilà. Les taux se resserrent. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. David Calfon, Sanso Longchamp Asset Management, Alain Pitou, Senior Advisor ESG et Thomas Friedberger, Tikeo Capital.